Vous écoutez RTL. RTL Matin.
Vous souhaitez poser une question à l'invité de RTL ?
Un seul numéro, 3210.
Et nous allons tout faire pour vous donner la parole avec Nicolas Sarkozy qui répond à vos questions. Merci d'être resté avec nous. On va tout de suite, justement, donner la parole à Christian qui nous appelle de Dijon dans la Côte d'Or. Bonjour Christian.
Oui, bonjour Iskelvi, bonjour Monsieur le Président.
Bonjour Christian.
Ma question concerne le dossier syrien. Vous qui avez rencontré vendredi dernier Vladimir Poutine, ne pensez-vous pas, justement, à l'instar du président russe, que finalement le maintien au pouvoir de Bachar el-Assad serait la moins mauvaise solution au problème syrien ? Et ma deuxième question concerne également ce dossier. Que pensez-vous du silence finalement assez assourdissant de Barack Obama sur le problème de la guerre contre Daesh ? Merci à vous, Monsieur le Président.
Faut-il maintenir Bachar el-Assad en Syrie.
Bon, d'abord, Christian, j'ai beaucoup apprécié la façon mesurée dont vous évoquez cette question syrienne qui est tellement complexe. J'ai effectivement parlé de cela avec Vladimir Poutine et j'ai des sentiments mélangés, mitigés. Je vais essayer de m'en expliquer le plus clairement possible avec vous. Bachar el-Assad, Christian, a la responsabilité personnelle de 250 000 morts syriens. D'abord par l'utilisation d'armes chimiques. Ensuite, par l'envoi, ce qui n'est pas rien, vous en conviendrez, Christian, de l'aviation syrienne sur le peuple syrien. Ce qui m'amène à vous faire une première réponse. Quand on a 250 000 morts sur les épaules, on ne peut pas incarner l'avenir de son pays. J'ai parlé de ça avec M. Poutine, et je crois qu'on peut trouver un compromis entre faire partir Bachar el-Assad dans les 4 jours et le garder 40 ans. On peut considérer qu'on doit discuter avec Bachar el-Assad de quoi ? Des conditions de son départ, que lui ne peut pas faire partie de l'avenir de la Syrie, mais que son parti, le parti Baas, que sa minorité, la minorité alaouite, que les gens qui ont travaillé avec lui, doivent participer de l'effort de rassemblement national et de réconciliation nationale. Il y a eu une erreur avec l'Irak, qu'ont commise les Américains. Bien sûr qu'on ne pouvait pas construire l'avenir de l'Irak sur Saddam Hussein. Mais c'était une erreur d'exclure de la reconstruction tous ceux qui avaient travaillé avec Saddam Hussein, parce que dans un régime de dictature, il y a des gens qui travaillent avec le dictateur, non pas parce qu'ils le souhaitent, mais parce qu'ils ne pouvaient pas faire autrement. Et deuxièmement, sur la question sur les Américains, le silence de Barack Obama, je pense vraiment que la politique américaine au Moyen-Orient a été une succession d'erreurs. Alors il y aurait beaucoup d'autres choses à dire. Je m'excuse auprès de vous d'être si lapidaire. Enfin, les questions évoquées étaient tellement importantes que c'est compliqué d'y répondre en deux minutes.
Vous avez répondu à la question de cet auditeur. Merci Christian de nous avoir appelé. On donne tout de suite la parole à Rosemonde qui, elle, nous appelle de Nice, dans les Alpes-Maritimes. Bonjour Rosemonde, Nicolas Sarkozy vous écoute.
Bonjour Monsieur le Président.
Bonjour Rosemonde.
Je fais partie des Républicains, je suis une Sarkozyste de la première heure et je voulais vous remercier d'avoir été un grand président et je voulais vous dire aussi, heureusement que vous étiez là en 2008, revenez pour cette question. Ma question est la suivante parce que je n'ai pas compris une de vos décisions et j'ai été un peu choquée. Ça concerne Nadine Morano. Donc en France, un humoriste sénile peut traiter une élue de connasse sans que cela n'offusque personne. Et cette même élue ne peut pas citer le général de Gaulle sans créer un tollé. Donc je ne comprends pas très bien le traitement qu'on lui a réservé, Monsieur le Président.
Rosemonde, d'abord, merci de vos appréciations. Ça aide à commencer bien la journée. Et je vais m'expliquer très franchement avec vous. D'abord, quand un humoriste ou prétendu tel insulte qui que ce soit, Nadine Morano comme une autre, c'est inadmissible. C'est sexiste, c'est scandaleux, et c'est indigne. Mais il se trouve, Rosemonde, que moi je ne suis pas un humoriste. Que mon travail, c'est pas de monter sur scène pour faire rire, mon travail, c'est de venir à RTL, de répondre aux auditeurs et d'essayer de présenter des solutions crédibles pour 68 millions de Français. Pas simplement pour les Français de droite, pour tous les Français. Et j'ai considéré qu'on ne pouvait pas être tête de liste dans un département comme la Meurthe-et-Moselle en expliquant dans le même temps que la France était une race. Parce que la France n'est pas une race. La France est une culture, c'est une identité, c'est un idéal, c'est une aspiration, c'est un symbole, c'est une communauté de valeurs, mais ce n'est pas une race. On peut être français, quelle que soit sa couleur de peau. Et je ne reviendrai pas là-dessus. J'ajoute sur le mot race et sur la citation du général de Gaulle. Peut-être, Osmond, vous aimez le théâtre, et notamment cette grande période 17e, le théâtre de Racine et de Molière. À l'époque, les phrases « tu es de mon sang, tu es de mon peuple, tu es de ma race », ça avait une signification. C'en a une autre aujourd'hui. Et j'ai dit à Nadine Morano, il suffit simplement de me faire un petit mot en disant que les mots ont dépassé ta pensée et que c'était pas exactement ce que tu voulais dire. Et on oublie tout ça. Mais j'ai pensé à tous nos compatriotes, qui sont d'ailleurs pour certains Français depuis plus longtemps que moi, dont le père vient de Hongrie. Que je ne pouvais pas accepter cela. Justement parce que je voulais parler à tous les Français. Et puis, Rosemonde, vous m'avez dit que vous étiez adhérent des Républicains. C'est pas un slogan. C'est pas un mot en l'air. C'est pas une chose pour faire bien. La République. La République. C'est pas une question de race, Rosemonde. Donc voilà. J'étais triste de faire cela, mais je l'ai fait. Puis un dernier mot. Quand on est le président d'une famille, le leader, le chef, on doit prendre des décisions. Les autres commentent, moi je dois décider. Et si c'était à faire, je le referais. Ça m'a coûté, mais c'était mon devoir de le faire. Et imaginez que je n'ai pas fait. Et pensez à toutes les régions où vous êtes de Nice. Il y en a tellement des gens qui, pardon, entre guillemets, ne sont pas de race blanche et qui ont le droit d'être républicains et de participer au combat pour le redressement de la France et pour la préparation de l'alternance. Réfléchissez bien, Rosemonde. Vous appartenez à une famille qui parle à tout le monde. Le général de Gaulle disait quoi ? Il disait que le rassemblement qu'il faisait, c'était à l'époque le RPF, c'était comme le métro à 6h du soir. Le métro à 6h du soir, Rosemonde, c'est pas une question de race, c'est une question de volonté.
Merci d'avoir répondu à Rosemonde. Rosemonde, merci d'avoir appelé RTL pour vous poser votre question. On va essayer de prendre le plus grand nombre d'auditeurs. Nicolas Sarkozy, et maintenant c'est Arnoul qui vous pose une question. Il nous appelle de Strasbourg, dans le Bas-Rhin. Bonjour Arnoul.
Bonjour Yves Calvi, bonjour Monsieur le Président.
Bonjour Arnoul.
Bonjour, merci pour tout ce que vous avez fait. Ça fait 35 ans que le Front National progresse d'élection en élection. Ça fait 35 ans que l'on combat ce parti de la même manière, avec les mêmes arguments, sans succès. N'est-il pas temps de changer notre argumentation et notre stratégie, par exemple de critiquer la gestion de la ville de Fréjus qui est gérée par un maire Front National ?
Oui, Arnoul, oui. D'abord, merci à M. Calvi de me rappeler que Strasbourg, c'est dans le Bas-Rhin.
C'est à moi que je parle, je retravaille ma géographie quotidiennement, Nicolas Sarkozy.
Non, mais je savais que Strasbourg, c'était pas comme Mulhouse qui est de Haut-Rhin.
Je ne m'adressais pas à vous.
Bon, pardon, c'est pas une plaisanterie, la question d'Arnoul est très juste. Je pense, oui, il faut changer. Alors, essayons de nous expliquer. D'abord, les montées des forces d'extrême droite, au fond, pas d'extrême droite d'ailleurs, des forces qui refusent tout système. Vous les voyez partout à l'œuvre, Arnaud. C'est pas qu'un problème français. Vous voyez un clown faire 25% des voix en Italie, c'est pas un jugement, c'est un clown. Vous voyez Tsipras, extrême gauche, qui s'allie avec l'extrême droite en Grèce, et qui fait au pouvoir exactement le contraire de ce qu'il avait dit pour gagner le pouvoir. Vous voyez, aux États-Unis, j'entendais l'antenne ce matin, franchement, ce monsieur Trump, on se demande ce qu'il vient faire pour être candidat à la tête de la première puissance du monde. On se pose des questions. Et je pourrais, vous voyez, Podemos, en Espagne. Bref, je peux faire le tour du monde, et on voit quoi, Arnaud ? Qu'est-ce qu'il y a derrière ça ? La profonde angoisse des gens.
Parce que vous, les partis traditionnels, les avez déçus.
Est-ce que... Certainement, monsieur Calvi. Mais enfin, je ne dirais pas simplement que vous, les radios, vous êtes concurrencés par tout le monde parce que vous avez déçus. D'abord parce que vous êtes dans un nouveau monde. Et est-ce que je peux prendre 2 minutes pour m'expliquer là-dessus, parce que c'est central.
Si c'est une, ce sera mieux, mais on vous écoute, bien entendu.
Il y a 7 milliards d'individus sur Terre. Si vous additionnez l'Europe et les États-Unis, ça fait moins de 1 milliard. Le centre de gravité du monde s'est déplacé de l'Europe, du monde occidental, M. Calvi, pour faire clair, vers l'Asie. Il y a un sentiment au sein des habitants de l'Europe, de la civilisation européenne. Est-ce qu'on va pouvoir continuer à vivre avec notre mode de vie, avec nos idées, avec nos langues, avec nos valeurs et avec nos terroirs? Cette inquiétude que je comprends provoque des tensions et une envie dans la population, dans une partie de la population, de jeter le bébé avec l'eau du bain, et de dire tout est foutu, tout est cassé, c'était mieux avant.
Et elle renforce le Front National. Ce que vous demandez à nous, c'est est-ce qu'il y a d'autres façons de s'y prendre pour les combattre ?
Oui, voilà. Je suis de ceux qui pensent que les leçons de morale n'ont aucun sens en la matière. J'ai d'ailleurs dit que pour le système des primaires que nous avions retenu, M. Calvi, Je souhaitais qu'y compris des gens qui ont voté une fois, deux fois, trois fois pour le Front National puissent y participer. Parce qu'à partir du moment où le Front National est autorisé à présenter des candidats, je ne vois pas au nom de quoi on doit reprocher à quelqu'un d'avoir fait ce choix. Je dis simplement aux électeurs du Front National que bien loin d'arranger les problèmes de la France de voter en donnant, comme on dit, un coup de pied dans la fourmilière, c'est pas parce qu'ils veulent plus de pilotes au volant de la voiture qu'eux-mêmes descendent de la voiture. Et que le remède sera pire que le mal, parce que Mme Le Pen n'a aucune réponse aux questions que l'on pose. Regardez ce qui se passe avec Tsipras. C'est pas Mme Le Pen qui peut maintenir la France au rang de grande puissance universelle, alors qu'elle n'a aucune expérience, alors que ce qu'elle dit est un tissu d'erreurs. Sur le plan économique, sur le plan social, sa volonté d'isoler la France conduira au drame. Et c'est mon devoir de le dire. Et si je suis revenu dans la vie politique, c'est justement parce que j'ai cette responsabilité sur les épaules. Et je vois très bien, devant les démissions du gouvernement socialiste, qui exaspèrent les gens, accablés d'impôts, ayant peur pour leur sécurité, étant affolés d'une politique migratoire qui n'est absolument plus contrôlée, se disent « Mon Dieu, on n'en peut plus, on fait le choix du pire ». Et je leur dis « Le choix du pire, c'est le pire des choix ». Et nous, les Républicains, nous avons cette responsabilité sur les épaules. C'est pour ça qu'il faut rassembler les suffrages sur les Républicains dès le premier tour. Nous avons tiré les leçons de nos erreurs. J'ai moi-même, certainement à titre personnel, pu contribuer à cette déception. Eh bien justement, je reviens, enrichi de ces échecs, ayant tiré les conséquences des problèmes que nous avons eus, pour
Nicolas
proposer
Sarkozy,
une alternative.
À 7h20, Jean-Philippe, qui lui aussi disait être un sympathisant, exprimait sur cette antenne cette question. Il disait « Pourquoi voterions-nous pour vous en 2017, puisque toutes les promesses de 2007 n'ont pas été tenues ?»
C'est faux, Monsieur Calvi. Pardon, j'aurais bien aimé, et comme un jour j'avais eu un entretien avec Madeleine, et...
Oui.
Cette personne...
Madeleine, elle nous a rappelé, elle vous demande ce qu'en cas de deuxième tour, vous feriez entre le PS et le Front National au Régional. Hein. Elle vous écoute.
Est-ce que je peux répondre à la question une à la fois, parce que sinon c'est pas possible.
L'une après l'autre, je vous en prie.
Votre interlocuteur, s'il nous écoute, qui m'écrive, je le recevrai bien volontiers. J'aimerais savoir quelle est la promesse de 2007 que je n'ai pas tenue. J'aurais dû aller plus loin sur un certain nombre de secteurs. J'avais promis l'autonomie de l'université, on l'a fait. J'avais promis les heures supplémentaires, on l'a fait. 9,5 millions de travailleurs, entre guillemets, pauvres, en ont bénéficié. J'avais promis le service minimum dans les transports en commun. Maintenant, il y a des grèves, vous en rendez plus compte, parce que les gens sont obligés de travailler. Hein ? J'avais promis la suppression des droits de succession. Je l'ai fait. J'avais promis la réforme du régime spécial de retraite des gaziers, des électriciens, des agents de la SNCF. Je l'ai fait. Quelle est la promesse de 2007 que je n'ai pas engagée ? J'aimerais qu'on me le dise. Derrière les grands moulinets médiatiques, j'aimerais qu'on me le dise. J'aurais dû aller plus loin en matière de sécurité, mais j'avais promis les peines planchers, on les a fait. J'aurais dû aller plus loin sur l'immigration, mais j'avais dit, il faut supprimer Schengen. Dieu sait ce que j'ai reçu à l'époque. Ça ne veut pas dire que j'ai tout bien fait. Mais vous savez, j'ai beaucoup de défauts. Il y en a un que je n'ai pas. Je ne suis pas un menteur.
Jean-Philippe, vous êtes avec nous, vous êtes revenu dans la partie, si je puis dire.
Oui, bonjour, Monsieur le Président.
Voulez-vous être plus précis sur ce que vous pensez ne pas avoir été fait ? En quelques mots, s'il vous plaît.
Absolument.
Et est-ce que Nicolas Sarkozy vous convainc par sa réponse, qui est une autre façon d'y répondre ?
D'accord. Bien évidemment, le pouvoir demande une gouvernance et des choix extrêmement précis. Moi, c'était sur un plan sociétal que je voulais poser ma question, et c'est sur quoi nous avons été énormément déçus, parce que je ne suis pas tout seul. De votre quinquennat, c'était au niveau, effectivement, sociétalement parlant, des décisions et de la déliquescence de nos valeurs et de notre économie qui n'a pas été pris, dans son ensemble comme il aurait fallu le faire avec le changement de la mondialisation.
Jean-Philippe, je vous remercie d'avoir rappelé. Alors, deux téléphones, ça prouve que vous êtes déçu, mais qu'il y a encore un lien entre nous, c'est ça qui est important. Je me suis posé la question, vous savez, la fameuse question de la TVA sociale, la mal nommée. Je l'ai fait en 2011, on se demande bien pourquoi M. Hollande l'a supprimé. Est-ce que j'aurais pu le faire avant ? Je vais m'en expliquer devant vous. Vous savez, c'est l'arbitrage entre le consommateur et le producteur. La fascination pour le prix le plus bas... La priorité donnée au consommateur finit par tuer le producteur. Et le jour où il n'y aura plus de production en France, Jean-Philippe, qu'est-ce qu'on pourra consommer ? Et où sera le pouvoir d'achat ? Et donc j'avais augmenté la TVA pour baisser massivement les charges des entreprises. Je ne l'ai fait qu'en 2011. Pourquoi je l'ai fait si tard, Jean-Philippe ? Parce que 2009 et 2010, il y a eu une baisse de la croissance colossale due à la crise de 2008. Et j'ai hésité, c'est vrai, j'ai eu peur que faire 2 points de TVA, alors que nous étions en récession, plonge le pays dans une récession encore plus grande. Il y a bien d'autres sujets dont je pourrais parler, mais souvenez-vous, maintenant, dès que quelqu'un prend un micro, il parle de l'identité. Qui a posé la question de l'identité, le premier ? Qui s'est fait insulter parce qu'il a défendu l'identité de la France, les valeurs de la France ? C'est moi. Donc je tire les conséquences de tout cela. Sans doute, j'aurais dû en faire davantage. Et vous voyez, le décalage entre le médiatique et ce que pense le peuple de France. Le médiatique m'a reproché pendant 5 ans d'en faire trop. Et le peuple de France disait, mais pourquoi il n'en fait pas assez ?
Catherine nous envoie un SMS et elle vous pose la question suivante, Nicolas Sarkozy. Je suis veuve, vous avez supprimé la demi-part, pourquoi ? C'est assez simple comme question.
Non, nous nous sommes retrouvés à l'époque dans pleine crise, en situation de devoir rétablir l'équilibre des pensions, parce que si je n'avais pas fait ces réformes et pris ces décisions, c'est vos pensions de retraite qui n'étaient pas payées. En 2010, lorsque je prends la décision de faire la réforme des retraites, tout le monde est contre moi. Et je vois bien que passer de 60 à 62 ans et prendre des décisions sur les veuves, ça pose un problème, parce que les gens vous en veulent, 10 manifestations nationales. Mais aujourd'hui, je peux vous dire, voilà, on a supprimé une demi-part, on a augmenté la durée de travail, vous partez maintenant à 62 ans, mais les pensions sont payées. Il n'y a pas un seul retraité qui a à se demander est-ce que sa pension serait payée. Si j'avais fait un autre choix, le régime aujourd'hui d'assurance vieillesse, et notamment pour vous les veuves, serait effondré. J'ajoute...
Mais vous, vous n'auriez rien si je n'avais pas pris cette mesure ?
Je dis que si on n'avait pas pris des mesures difficiles, les pensions ne seraient pas payées. J'ajoute que j'ai passé la pension de réversion, je ne me souviens plus exactement, mais je crois de 55 à 60%, parce que j'ai pensé à cette question des veuves. Voilà. Voilà pourquoi on prend des décisions, et voilà la difficulté de gouverner la France.
Cette décision, si vous aviez été encore au pouvoir aujourd'hui, comme l'a fait le gouvernement ?
Vous savez, le gouvernement n'est revenu sur rien du tout. C'est bien, le gouvernement n'est revenu sur rien du tout. On se demande, le même gouvernement qui, en 2 minutes, supprime les heures supplémentaires, le même gouvernement qui, en 2 minutes, supprime les recettes de TVA que nous avions fait voter, pourquoi il ne revient pas là-dessus ? Au nom de quoi ? C'est peut-être un peu éculé maintenant de dire « c'est la faute à Sarkozy ». Puis-je rappeler, aimablement, républicainement parlant, du micro de RTL à François Hollande, « Monsieur le Président ». C'est vous le président, ce n'est plus moi, pour l'instant.
Vous répondez à Madeleine qui voulait savoir très concrètement, vous savez avec qui vous entretenez cette correspondance grâce à RTL, et qui voulait tout simplement vous demander, en cas de deuxième tour régional, si au second tour on se retrouve avec une hypothèse entre le Parti Socialiste et le Front National, appelez-vous à voter pour le PS ? La question précise de Madeleine, c'est appelez-vous à voter pour le PS en cas de deuxième tour où il y a le Front National et le Parti Socialiste ?
D'abord, je n'entretiens pas avec Madeleine que des rapports épistolaires, M. Calvi.
Non, puisque vous l'avez rencontrée.
Elle est venue, même elle est venue avec sa sœur, je la salue. Je n'ai jamais appelé à voter pour le Parti Socialiste, je n'ai pas l'intention de commencer.
Et une dernière question.
Mais pour les choses, je vais vous dire, je me bats toutes mes forces pour que le problème ne se pose pas. Et je veux dire d'ailleurs que Xavier Bertrand, pour la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie, et Christian Estrosi, pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. L'un est contre la fille, l'autre contre la petite fille. C'est une affaire de famille, cette affaire du Front National. Heureusement qu'on n'a pas encore derrière petite fille. On avait arrêté où ? Eh bien, ces deux candidats sont courageux, sont talentueux, et sont de nature à redresser des régions qui ont été mises à mal par une mainmise socialiste sur ces régions. Et que le meilleur service à rendre pour que les choses se passent bien, Madeleine, c'est que dès le premier tour, au lieu de vous faire plaisir en votant pour le Front National, que vous fassiez le choix de tous les amoureux de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Votez pour Christian Estrosi. Et je dis dans cette région Nord-Pas-de-Calais-Picardie, qui a souffert de tant de crises, qui a été ravagée par tant d'années de chômage, avec des gens qui sont des ouvriers, qui souffrent des délocalisations, il faut faire confiance à Xavier Bertrand, parce qu'il n'y a que nous, il n'y a que Xavier Bertrand qui peut sortir la région du marasme dans lequel il se trouve. Voilà la vérité. Ça ne fait peut-être pas plaisir. Votez pour Marine Le Pen. Vous en aurez certainement plaisir pour le moment où vous le faites. Mais vous confiez votre région pour plusieurs années à quelqu'un qui va l'isoler. Le Nord-Pas-de-Calais, Picardie, c'est le symbole de l'accueil et de l'ouverture de la France. Vous ne pouvez pas mettre à la tête de cette région le symbole de la fermeture et de la détestation. C'est pas possible.
Le soutien du président des Républicains à ses candidats, Christian Estrosi.
Ça, c'est vrai que je les soutiens.
Et Xavier Bertrand.
Ça, c'est vrai.
Merci Nicolas Sarkozy d'être venu ce matin à RTL, d'avoir discuté avec nos auditeurs.
C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. C'est un plaisir.
Bonne journée à vous.